Aux petits soins de nos clients dans plus de 14 pays d'Afrique, Suno Assurance vous fait profiter d'une assurance santé toute option, où que vous soyez. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé, émission spéciale à Abidjan. Caroline Barry.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé. Priorité Santé qui vous retrouve à Abidjan aujourd'hui encore à l'occasion de la 12e édition du FEMUA pour cette émission enregistrée en public. Alors notre thème du jour, c'est la contraception chez les jeunes, s'aimer, rester en bonne santé, ne pas subir les conséquences d'une rencontre, d'un coup de foudre, n'hypothéquer ni son avenir, ni son bien-être. Amour et santé, c'est notre sujet du jour, c'est notre sujet de tous les jours. Pour que l'un n'aille pas sans l'autre, il faut connaître son corps, prendre soin de son corps, comprendre l'enjeu des rapports sexuels, du respect, du consentement, se protéger des infections sexuellement transmissibles, pouvoir éviter les grossesses non désirées. Alors c'est compliqué pour de nombreuses raisons. Il y a peut-être d'abord les tabous à cause des difficultés d'accès à l'information, parfois même aux structures, aux dispositifs de santé. Si on regarde les chiffres de la Côte d'Ivoire, 2018, 23% d'utilisateurs ou d'utilisatrices de la contraception. En 2012, on était à 15%, contre presque 23% aujourd'hui. Alors, il y a donc eu des efforts de fait pour la planification familiale, mais est-ce que ça parle vraiment à vous, les jeunes? Est-ce que vous savez où trouver l'information? Est-ce qu'on en parle à l'école? Est-ce qu'on en parle en famille? Où est cet accès à la contraception? Et qu'est-ce qu'on fait quand, justement, on se retrouve face à une porte fermée, les blocages, les tabous? Comment est-ce qu'on peut améliorer cette prévention, cette information, cette sensibilisation? On en parle avec nos invités et avec vous, dans le public, ici à Abidjan. Alors, beaucoup de questions, on va écouter toutes ces interrogations des jeunes du public. Et bien sûr, vous donnez la parole aux trois invités qui sont présentes sur le plateau. Je dis présentes parce qu'il s'agit de trois femmes. Docteur Germaine Moquet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gynécologue obstétricienne, spécialiste des IST, on le verra tout à l'heure, parce qu'il va y avoir aussi des questions sur la contraception, mais aussi sur la protection pour rester en bonne santé. Et vous consultez dans le centre de santé urbain à base communautaire de la Riviera Palmeraie de Cocody. Je ne me suis pas trompée,
oui.
C'est bien
non,
ça.
C'est exact.
Alors, pour représenter les pouvoirs publics avec nous, docteur Gauthier-Noix Sanogo, bonjour.
Bonjour, Caroline.
Vous êtes adjointe au chef de service prévention et programmation au programme national santé scolaire universitaire des adolescents et des jeunes. Et puis avec nous, Euphrasie Koulibaly, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente de l'association Réseau des jeunes ambassadeurs pour la planification en Côte d'Ivoire. Alors pour commencer, on va vous donner la parole, docteur Sanogo, puisque vous représentez un petit peu les pouvoirs publics, ce qui est fait au niveau de l'État pour essayer d'améliorer la situation. Aujourd'hui, ce taux de planification familiale, on disait 23% en 2018. Est-ce que d'après vous, Madame Sanogo, ce niveau est satisfaisant ?
Ce niveau de 23% comme taux de prévalence contraceptive en Côte d'Ivoire, je dirais, non, ce n'est pas satisfaisant parce qu'on s'est fixé des objectifs dans le cadre de la planification familiale. D'ici 2030, on doit atteindre un taux de 36%. Nous sommes en 2019. 2030, c'est loin, mais c'est à côté. Et à 23%, je pense que vraiment, c'est pas satisfaisant.
C'est pas facile d'arriver à ces chiffres, d'autant plus qu'il y a des objectifs nationaux. Il y a aussi les objectifs qui ont été fixés dans le cadre du pacte de Ouagadougou, cet ensemble de 9 pays de la sous-région concernés aussi par un nombre très grand de naissances par femme, par des naissances précoces, des grossesses précoces, par des grossesses rapprochées. Tous ces pays se sont fixés des objectifs. La Côte d'Ivoire n'est pas vraiment un mauvais élève de ce groupe du plan du pacte de Ouagadougou, mais quand même, on a envie de dire, docteur Sanogo peut mieux faire.
Oui, la Côte d'Ivoire peut mieux faire. Et si on se réfère encore au taux des décès maternels, qui reste encore très élevé, il faut dire qu'il faut faire des efforts.
Il faut faire des efforts. Parce que là,
il y a la possibilité, il faut vraiment s'y mettre pour élever ce défi, je dirais.
Parce que vous avez cité justement ce lien entre la contraception, c'est aussi quelque chose pour la vie quand on évite les grossesses trop rapprochées, les grossesses précoces. On protège la santé des femmes et la santé des filles. Docteur Germaine Moquet, c'est un véritable combat justement d'essayer d'améliorer la situation au quotidien. Avoir un bébé, oui, mais oui, quand on le souhaite et au bon oui âge.
Bien sûr. Effectivement, là, il faut dire que la contraception entraîne un bien-être et puis la contraception aussi agit sur la réduction de la mortalité maternelle. Parce que lorsque une mère a accouché, il faudrait qu'elle ait le temps de se reposer, de récupérer et puis aussi de nourrir l'enfant. Et pour pouvoir récupérer, il faudrait qu'elle espace les naissances. Et qu'est-ce qu'il faut, il faut utiliser pour espacer les naissances? Nous avons les méthodes contraceptives.
Alors justement, pendant 15 ans, vous avez été responsable de l'association ivoirienne pour le bien-être familial à Abidjan. Est-ce que vous pouvez nous citer justement ces moyens contraceptifs les plus fréquemment utilisés ici en Côte d'Ivoire?
Il y a d'abord les méthodes hormonales, les méthodes non hormonales, puis la méthode chirurgicale. Les méthodes hormonales, nous avons les pilules combinées. Et puis non hormonales, nous avons le stérilet, le DIU. Et puis nous avons aussi les méthodes chimiques, mécaniques. Et puis nous avons la contraception d'urgence aussi. Mais ici, la méthode la plus utilisée en Côte d'Ivoire, il faut dire que nous avons la méthode injectable.
C'est-à-dire c'est l'implant.
La méthode, c'est l'implant, oui, vient en deuxième position, mais la méthode injectable, ce sont des méthodes hormonales, telles que les injections de 2 mois à 2-3 mois. Ce sont
les méthodes les plus utilisées
en Côte d'Ivoire.
Alors, du côté spécifiquement des jeunes, Frazi Koulibaly, est-ce que vous disposez d'indications? On n'a pas forcément la même contraception quand on a 18, 23, 27 ans que quand on en a 38 ou 40. Sur quels moyens se reposent les jeunes, justement, quand ils veulent avoir une contraception? Et puis, si possible, bien sûr, une contraception efficace.
Au niveau des jeunes, c'est surtout le préservatif. Les jeunes utilisent beaucoup le préservatif, mais au niveau des jeunes filles qui veulent utiliser une méthode de contraception autre que le préservatif, en général, c'est l'implant, parce que c'est plus discret et la personne peut prendre sa méthode pour une longue durée.
Quand on utilise un préservatif, quand on est jeune, on l'achète où?
Le préservatif se vend en pharmacie, mais aussi lors de nos activités sur le terrain, on distribue le préservatif gratuitement.
Et justement, les jeunes qui utilisent le préservatif, c'est peut-être une question qui peut faire sourire certains, mais c'est une question qui se pose réellement. Est-ce qu'ils savent bien l'utiliser ou est-ce qu'il y a des campagnes ou des méthodes de sensibilisation afin de leur montrer tant qu'à faire à utiliser un préservatif, autant que ce soit fait de façon efficace?
Tous les jeunes ne savent pas utiliser le préservatif. Il y a beaucoup de jeunes qui pensent savoir utiliser le préservatif, mais qui ne savent pas effectivement utiliser le préservatif. Souvent, tu demandes à un jeune, quand tu prends un préservatif, la première chose à faire, il te dit, on déchire le préservatif. Or, la première chose à faire quand on a un préservatif, ce n'est pas de l'ouvrir, c'est d'abord de regarder la date d'opération et de regarder aussi les conditions de conservation de ce préservatif.
Parce qu'il peut s'abîmer.
Effectivement, il peut avoir une date d'opération qui est encore valide, mais être abîmé.
Avec des conséquences importantes, c'est la rupture du préservatif. Donc, il faut faire attention à ça. Et par rapport à ce que vient de dire Euphrasie Koulibaly, docteur Germaine Moquet, est-ce que les méthodes qu'elle a citées pour les jeunes, c'est très différent par rapport à ce que l'on voit, on va dire, dans les familles, chez les adultes?
Effectivement, chez les jeunes, on utilise plus... Elle a parlé des implants, mais les implants, les jeunes utilisent beaucoup. Mais dans les familles, les jeunes qui ont des parents vraiment très sick n'arrivent pas à utiliser l'implant parce qu'il y a une cicatrice. Et lorsque le jeune se met sous implant, arrivé à la maison, les parents vont lui poser des questions pour lui demander est-ce que tu as eu quel accident. Donc, ce qui fait qu'ils utilisent les méthodes les plus discrètes, c'est-à-dire les injectables ou bien les méthodes orales.
Et justement, ces deux méthodes, oui, où est-ce qu'ils se dirigent? Vers quelle structure se dirigent-ils justement pour les trouver?
La majorité du temps, ils se dirigent dans les officines privées. Il faut dire que ça se vend dans les officines privées parce qu'ils n'ont pas les informations sur tous les centres de santé qui offrent les services de contraception.
Ça veut dire vers les cliniques plutôt?
Vers
les cliniques ou les pharmacies?
Non, les pharmacies. Les pharmacies privées.
Est-ce que vous diriez, Euphrasie Koulibaly, que les jeunes ont un accès satisfaisant à la contraception? À l'instant, le docteur Moquet vient nous dire qu'ils ne vont pas forcément au bon endroit pour chercher les contraceptifs. Pourquoi? Parce qu'on les reçoit mal ou parce qu'ils sont mal informés?
On peut dire en Côte d'Ivoire que les jeunes n'ont pas encore vraiment accès aux services de contraception. Parce que lorsqu'un jeune se rend par exemple en pharmacie pour acheter son préservatif, quand il demande à la personne qui est à la caisse, je veux un préservatif, tout de suite la personne a une réaction comme si la personne venait de lui avouer un meurtre. Ou tu te rends dans un centre de santé publique.
C'est la culpabilité, on culpabilise les jeunes.
Effectivement. Ou tu te rends même dans un centre de santé publique pour demander un service de contraception. Lorsque c'est une femme qui est sage-femme qui est là, elle te reçoit comme ta mère. Au lieu de te recevoir comme un prestataire de santé, elle va commencer souvent à te moraliser, à te dire, au lieu de partir à l'école ou te concentrer sur tes études, tu viens chercher une méthode de contraception. C'est comme si tu avouais en fait que tu étais sexuellement active.
Docteur Germaine Mouquet, justement, sur quel levier on peut agir pour adapter au mieux l'accès, les structures au profil spécifique des jeunes?
Il faut dire que depuis un certain temps, on a commencé à former les prestataires de santé pour l'accès, pour la réception des jeunes dans les centres de santé. Parce qu'il faut dire que les jeunes ont d'abord, ils ont des horaires de fréquentation dans les centres de santé. Donc on essaie d'adapter ces centres de santé à leurs horaires et puis essayer de former les prestataires pour la réception des jeunes. Ouais, la réception des jeunes, parce que la réception, c'est pas comme Euphrasie l'a dit. Effectivement, il y a un langage de réprimande, mais il faudrait que, avec la formation, la formation des prestataires, je pense que actuellement, on essaie d'améliorer les services pour leur accueil.
Justement, docteur Gauthier-Noah Sanogo, en tant que responsable scolaire universitaire, ce programme sur les questions de contraception, qu'est-ce qui est fait pour améliorer l'accueil des jeunes, finalement, qui ont souvent l'impression d'être jugés quand ils demandent un préservatif ou un autre mode de contraception?
Je voudrais dire que pour que les adultes reçoivent mieux les jeunes, il y a ce programme de formation qui a commencé depuis 2014. Programme de formation des prestataires et programme de réorganisation également des structures de santé pour les adapter aux besoins des adolescents et jeunes. Et lorsque l'un des problèmes, le jeune quand il arrive, souvent le temps d'attente fait qu'il se retourne. Et comme Dr Mouquet l'a dit, ils ont des horaires spécifiques. Il faut que ces centres-là adaptent leurs horaires de consultation aux besoins de ces jeunes. C'est ce travail-là qui est en train d'être fait depuis 2014.
Alors 2014, c'est 5 ans plus tard, c'est quoi les résultats?
5 ans plus tard, les résultats sont en train de s'améliorer. On n'est plus à la case de départ. Il y a quelque chose qui est en train d'être fait pour véritablement répondre à la préoccupation des jeunes en matière de contraception. Mettre à disposition la contraception, faire en sorte que les jeunes ils aient accès et qu'ils utilisent. Ils utilisent parce que l'une des choses, c'est d'avoir accès et l'autre, c'est d'utiliser. Alors, donc, véritablement, accès, accessibilité, utilisation de ces services mis à leur disposition.
Alors, le docteur Sanogo nous dit que l'impulsion est lancée. Euphrasie Koulibaly, vous qui êtes auprès des jeunes qui ont besoin de cette contraception, est-ce que vous avez l'impression simplement que c'est vrai, qu'il y a vraiment des efforts et que les choses s'améliorent?
Je dirais qu'il y a des efforts qui sont mis en œuvre par le gouvernement. Mais il y a quelque chose qui a la carapace un peu plus dure que les efforts du gouvernement, c'est les tabous culturels. Nous sommes dans une société où la contraception à la base n'est pas acceptée, surtout pour un jeune. Et donc quand tu te rends dans un centre de santé, c'est vrai que le prestataire a été formé, mais sa carapace culturelle devient plus dure que la formation que ce prestataire-là a reçue. La deuxième chose qui fait que les jeunes n'ont pas trop souvent accès, et ça je parle d'une expérience qui est très récente, on a fait des focus group avec CARE International à Boaké, Yamoussoukro et Daloa et Meagi dans 4 zones avec les prestataires de santé et les jeunes qui sont assis face à face et qui discutent. Et ce qui est ressorti, les prestataires disent qu'ils ont des ruptures de stock, c'est pourquoi souvent quand les jeunes viennent, ils n'ont pas accès aux services. Et les jeunes qui reprochaient aux prestataires de ne pas les recevoir réellement, mais aussi les prestataires ferment le centre à midi, pendant que les jeunes sortent des classes, repartent aussi à la maison vers 16h30 ou 17h pendant que les jeunes sortent des classes.
Donc eux, ils ne sont pas adaptés.
Effectivement, les horaires ne sont pas adaptés.
Docteur Germaine Mouquet, par rapport à ce qui vient d'être dit, une question assez importante quand on parle justement de contraception. On va faire un petit tour de table à ce sujet parce que j'aimerais avoir votre point de vue à toutes les trois. Quand il y a contraception, est-ce que c'est plutôt l'affaire des filles ou plutôt l'affaire des garçons qui sont les plus nombreux ou les plus nombreuses à se déplacer dans ces centres? Docteur Germaine Mouquet, vous, votre expérience, c'est quoi?
Mon expérience, c'est qu'en matière de contraception, c'est plutôt les filles et les femmes qui se déplacent. Qui se déplacent beaucoup pour... Parce que la mentalité africaine dit que c'est la femme qui doit prendre ses précautions et non l'homme. Donc la culture fait que ce sont les jeunes filles, les jeunes femmes que nous recevons beaucoup en consultation. Et il faut dire que, comme on l'a si bien dit, on a toutes les méthodes en Côte d'Ivoire. Et les jeunes peuvent utiliser toutes les méthodes. Mais le I, comme l'a dit, il y a beaucoup de ruptures. Par exemple, un jeune qui se rend dans un centre de santé, il se pourrait qu'il voudrait une méthode, mais là...
Elle ne sera pas disponible.
Elle ne sera pas disponible.
Et au niveau du coût, qui l'assume, qui assume, qui paye justement ces contraceptifs?
Le coût, c'est pour les jeunes. Il y a certaines structures qui font gratuit pour les jeunes. Mais la majorité des centres, il faut dire que c'est payant, mais le prix est dérisoire. Parce que, par exemple, pour une plaquette de contraceptif oral, c'est à 150 francs. C'est très accessible. C'est moins cher que le petit déjeuner, même le déjeuner, même du jeûne. Donc, je pense que le prix est accessible.
C'est vrai, quand on parle de santé, souvent on dit c'est cher. Là, pour le coup, c'est pas très cher.
Oui, il faut la disponibilité. Par exemple, pour les préservatifs, c'est à 25 francs. Donc, je pense que c'est disponible, mais il faudrait que ce soit accessible. C'est l'accessibilité de foi qui manque.
Euphrasie Koulibaly, le docteur Moquet disait, ce sont surtout les filles qui vont consulter pour la contraception. Pourtant, vous disiez, chez les jeunes, c'est surtout le contraceptif, on va dire le préservatif. Alors, ça veut dire que ce sont aussi les filles qui achètent les préservatifs?
Pour le préservatif, c'est un peu différent. Les garçons achètent le préservatif. Parce qu'il faut dire encore qu'il y a ce rapport de dominance des garçons sur les filles. C'est le garçon qui décide en général s'il doit mettre le préservatif ou non. La discussion n'est pas encore assez claire entre les jeunes couples. Et donc, c'est le garçon qui achète le préservatif. Parce que même si la fille achète le préservatif, qu'elle décide d'utiliser le préservatif et que le garçon ne veut pas, c'est pas sûr que le préservatif sera utilisé.
Et est-ce que vous travaillez justement pour responsabiliser des deux côtés? Parce que justement, s'il y a rapport sexuel, il y a responsabilité. Donc c'est bien facile de faire une chose sans en assumer les conséquences. C'est facile. Donc c'est pour cela aussi que la discussion doit s'installer dans le couple, même s'il est très jeune, pour que cette responsabilité soit partagée. Et c'est quelque chose sur lequel vous travaillez, j'imagine.
Effectivement, on travaille avec les filles pour... les équiper, pour leur donner un peu plus de leadership, pour leur donner un peu plus la force de prendre la parole, parce que un couple, c'est 50%, c'est pas à quelqu'un de dominer sur l'autre. Et donc, voilà. La discussion pour le port de préservatif devrait être de façon équitable et non être décidée par l'homme.
Et au niveau des préjugés, il y a les usages, des usages qu'on peut changer, et puis il y a aussi des préjugés, des idées fausses. Est-ce qu'en matière de contraception, par exemple, régulièrement, arrivent des questions qui ont même de quoi vous étonner? Docteur Germaine Moquet, je vois que vous avez envie de réagir.
Oui, effectivement, il y a des fausses rumeurs sur les méthodes contraceptives. Par exemple, au niveau des méthodes hormonales, les pilules, il y a certaines personnes qui disent que les pilules rendent stériles, infertiles, donc ils ne doivent pas utiliser, ou bien le stérilet donne le cancer, ou bien ça migre dans ton corps. Bon, donc il y a plein de préjugés qui font que ça bloque l'utilisation de certaines méthodes. Donc nous disons qu'il faudrait que les jeunes puissent avoir les informations exactes pour pouvoir utiliser. Donc il faudrait qu'ils se rendent au niveau des centres de santé et non pas dans les pharmacies pour pouvoir utiliser les méthodes contraceptives.
Et avoir une discussion. En tout cas,
avoir une discussion.
La discussion, on va l'ouvrir tout de suite avec les jeunes du public, avec les jeunes qui sont ici dans l'assistance, qui nous écoutent plus ou moins sagement ici à Abidjan. On va donner tout de suite le micro à un premier spectateur, auditeur. Bonjour Morel.
Bonjour Caroline.
On écoute votre question, Morel.
Je me présente Morel, j'ai 25 ans.
Oui.
Ma question est la suivante. Quel est le mot de prévention le mieux approprié pour un jeune? Ça, c'est la première. Et la deuxième question, c'est de savoir, est-il obligé d'utiliser le préservatif avec sa chérie? Bien sûr.
Obligé, je ne sais pas. On va prendre la première question. Protéger, vous disiez protéger plutôt des maladies, des infections sexuellement transmissibles, ou se protéger d'une grossesse éventuelle?
Bon, se protéger des maladies en question.
Des maladies. Je me tourne vers vous, docteur Moquet. Qu'est-ce que vous dites à un jeune qui dit, de toute façon, tout à fait normal et tout à fait logique, moi j'ai envie d'avoir une relation sexuelle, mais pas de tomber malade? Qu'est-ce que vous lui dites?
Mais un jeune qui est vraiment sexuellement actif, il faudrait qu'il se protège contre une grossesse non désirée et contre une infection sexuellement transmissible. Et pour se protéger contre ces deux pathologies, il faut prendre une méthode contraceptive ou bien il faut se mettre sous préservatif. Parce que même quand la méthode contraceptive seule ne peut pas vous protéger contre une infection sexuellement transmissible, il faut associer le préservatif. Dans le cas contraire, vous utilisez le préservatif pour tout moment. Parce que le préservatif a deux rôles. Le préservatif protège contre une grossesse non désirée et protège aussi contre les infections sexuellement transmissibles.
Mais il y avait cette expression de Morel qui disait « Est-ce que c'est obligatoire ?» On ne peut pas parler d'obligatoire. Mais c'est difficile. Il faut faire comprendre. Oui. Ce n'est pas une obligation, mais c'est le faire comprendre. De
voilà,
comprendre.
Justement.
Qu'est-ce que vous voulez pour votre avenir ?
C'est ça. Voilà. Vous voulez quoi pour votre avenir ? Il ne suffit pas d'être sexuellement transmissible et sexuellement actif et être malade. Parce que vous êtes sexuellement actif, mais il faut se protéger contre une maladie. Et parce que quand tu es tout le temps malade, tu ne peux pas avoir 50, 60, 60 ans. Et donc, il faudrait se protéger lorsque tu es sexuellement actif. Maintenant, lorsque tu as un seul partenaire, que tu n'as pas de partenaire multiple, donc en ce moment, il faudrait faire comprendre à ton partenaire que, bon, avec les partenaires multiples, on peut avoir une infection. Donc, il faut être fidèle à son partenaire. Là, vous pouvez ne pas être vraiment avoir une obligation de vous protéger. Mais c'est difficile quand même à votre âge. Je me demande bien d'être fidèle à un seul partenaire à votre âge. Question pour laquelle il faut toujours utiliser le préservatif.
Euphrasie, vous voulez réagir, Euphrasie Koulibaly?
J'ai l'impression que Morel n'est pas très satisfait de la réponse.
Bon, évidemment que je ne suis pas satisfait. Parce que là, il y a eu un débat entre un ami et moi qui disait que sa chérie était contre le port du préservatif. Voilà, parce qu'elle n'était pas satisfaite.
Que ça changeait son ressenti au moment des relations sexuelles.
Et on a coutume à dire chez nous aussi, on ne mange pas comme ça le banane pour avec la banane avec la peau. Voilà comme on le dit. Le plaisir n'est pas partagé. Là, il y a une mésentente.
Pourtant, des millions, des milliards de personnes sur cette planète utilisent le préservatif.
Évidemment, oui.
Et ils ne sont pas dégoûtés pour autant.
Non, je ne pense pas.
Morel, si vous voulez un enfant maintenant, vous n'êtes pas obligé d'utiliser une méthode de contraception. À ce moment, vous avez le droit de ne pas utiliser. Mais si vous voulez le plaisir sans le préservatif, vous aurez aussi un bébé sans le préservatif et sans une autre méthode de contraception. Parce que c'est les deux. Soit vous utilisez le préservatif pour vous protéger des IST, VIH, SIDA. Si vous estimez que vous êtes fidèle et que vous avez fait le test de dépistage et qu'il n'y a pas de risque, à ce moment, vous utilisez une autre méthode de contraception si vous estimez que c'est pour vous protéger d'une grossesse non désirée. Dans le cas contraire, vous aurez le plaisir, mais vous aurez aussi un bébé.
Et vous serez réveillé la nuit. Et vous serez moins en forme pour, justement, continuer à utiliser des préservatifs.
Franchement, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que là, quand il dit non, ah, si vous voulez un bébé, vous le faites sans le préservatif. Non, si moi j'ai confiance en ma chérie, je sais que je suis sain, de corps, d'âme, d'esprit. Elle a fait son test, moi j'ai fait mon test, il n'y a pas de problème. Eh, c'est une jeune fille quand même.
Mais on parle d'un bébé.
Son cycle mensuel, là. Il n'y a pas de souci, hein.
Ah non. Là, on va donner la parole au docteur Moquet parce que connaître son cycle menstruel, ça ne protège pas des grossesses. Aïe, aïe, aïe. Ça fait des très beaux bébés.
Oui, effectivement. Effectivement, il y a des méthodes naturelles, certes, mais ces méthodes ne sont pas vraiment efficaces pour ne pas avoir une grossesse. Parce que pour utiliser une méthode naturelle, il faut connaître son cycle sur 6 mois à 1 an. Est-ce que parmi vous, les jeunes filles, est-ce qu'elles connaissent le cycle sur 1 an pour pouvoir avoir une méthode de calendrier exact? Est-ce que vous voyez? Et donc, c'est très difficile. C'est très difficile d'utiliser une méthode naturelle pour éviter une grossesse. Et même si vous évitez la grossesse et les infections sexuellement transmissibles, qu'est-ce que vous allez en faire? Voilà, parce que vous allez utiliser la méthode naturelle, mais les infections sexuellement transmissibles demeurent. Donc, il faudrait que vous utilisiez aussi quelque chose pour vous protéger contre les infections sexuellement transmissibles. Et donc, c'est pourquoi le préservatif est mieux adapté pour éviter ces deux faits, la grossesse et les infections sexuellement transmissibles.
On va prendre un autre spectateur, c'est Emmanuel qui va prendre la parole. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
On vous écoute, Emmanuel.
Bon, moi, c'est Emmanuel, j'ai 25 ans.
Oui.
Bon, moi, déjà, j'ai une partenaire déjà qui est enceinte déjà 7 mois. Elle est enceinte de 7 mois. Donc, moi, J'ai pas de méthode à utiliser, hein. J'ai pas de méthode contraceptive. Moi, ma question, c'était sur le planning familial. Parce que j'ai peur qu'elle tombe enceinte encore. Après avoir couché, qu'elle tombe enceinte encore. Bon, ça serait un peu un problème pour moi. Donc, moi, c'était les méthodes à utiliser pour le planning familial. Comment planifier un peu mes enfants? Comment.
Ben, c'est la question que je pose. Mais vraiment. Je pense que ce qu'on va voir, c'est que c'est pas très différent quand on n'a pas d'enfant et quand on a déjà un enfant. En tout cas, vous allez accueillir cette enfance, mais c'est qu'après, vous souhaitez espacer la prochaine naissance.
C'est ça. C'est la question que je veux savoir.
Mais on va le dire, hein, docteur Moquet, il n'y a pas de différence fondamentale.
Il n'y a pas de différence fondamentale. Mais vous savez qu'on utilise une méthode contraceptive pour avoir une grossesse au moment voulu. Au moment voulu, c'est pourquoi on utilise une méthode contraceptive. Pour ne pas avoir une grossesse non désirée. C'est-à-dire une grossesse non désirée, une grossesse qui survient au moment où on ne s'y attend pas. Donc, vous, dans votre cas, votre compagne, elle est déjà enceinte. Donc, la meilleure des choses, c'est qu'après l'accouchement, même au cours de la grossesse, il faudrait qu'on la sensibilise pour qu'elle puisse vraiment prendre une méthode après l'accouchement. Après l'accouchement, ne serait-ce que pour pouvoir elle-même récupérer, pour pouvoir bien nourrir l'enfant lorsque l'enfant va marcher. C'est pourquoi nous disons que la planification, c'est l'espacement des naissances 2 ans. Minimum entre chaque grossesse.
Emmanuel, vous avez ce bébé qui est là. Est-ce que ce bébé, c'était quelque chose de prévu?
Oui, je dirais que c'était quelque chose de prévu.
Et votre compagne, elle est étudiante? Elle avait un projet professionnel, quelque chose en cours?
Non, elle n'est pas étudiante.
Donc ça n'a pas, ça pas du tout bloqué son projet?
Non, ça n'a rien bloqué. Ça n'a pas bloqué.
Alors pourquoi vous voulez justement cet espacement des naissances? Pourquoi vous ne voulez pas fonder une famille, une grande famille immédiatement?
Non, parce que voilà, en tout cas, il ne s'est pas dans une situation vraiment. Il peut dire financièrement parlant, il ne s'est pas dans une situation, dans une bonne situation. C'est vrai qu'il peut m'occuper de l'enfant, mais pour dire qu'une grande famille, pour le moment, ça serait un peu compliqué pour moi. Donc, moi, c'était juste faire un enfant, m'occuper de l'enfant, et puis ensuite, après, planifier la grossesse pour avoir assez de moyens maintenant pour faire des enfants. Donc, moi, c'était la méthode à utiliser. La méthode, il me dit que bon, je n'ai pas utilisé les préservatifs encore, puisque j'ai une seule partenaire, non. Donc c'est la méthode que je voulais savoir, quelle méthode utiliser pour une bonne planning familiale.
Eh bien, ce qu'on a entendu, c'est en tout cas consulter, même pendant les consultations prénatales, en parler avec les sages-femmes, en parler avec le médecin qui pourra d'ores et déjà, pour la sortie de la maternité, donner les meilleurs conseils en matière de planification familiale. Merci beaucoup Emmanuel. On va prendre un autre auditeur. C'est une auditrice, spectatrice qui est avec nous. C'est Fatime. Bonjour Fatime.
Bonjour Madame Caroche. Fatime, j'ai 20 ans.
Et on écoute votre question.
Voilà, ma question est la suivante. Est-ce que la contraception ne rend-elle pas stérile?
Alors c'est une question qu'on a abordée tout à l'heure. Ça fait partie des rumeurs, des fausses informations qui circulent, qui sont peut-être d'ailleurs distillées par certains qui veulent faire courir ces fausses rumeurs pour que les gens n'utilisent pas aussi de la contraception. La contraception qui rend stérile, on va vous faire réagir les unes et les autres à ce sujet. Docteur Germaine Moquet, pourquoi justement ce mythe revient régulièrement? Pourquoi autant de croyances sur le rapport entre stérilité et contraception?
Il faut dire que lorsque on décide de se mettre sur une méthode contraceptive, il faut aussi se demander à quel moment je voudrais avoir une grossesse. Parce que il y a des personnes qui se mettent, qui utilisent une méthode contraceptive et ils se disent que dès que j'arrête ce mois, le mois prochain, il faudrait que j'aie une grossesse. Or, ce n'est pas le cas. Lorsque vous utilisez une méthode contraceptive, vous bloquez l'ovulation. Lorsque vous arrêtez, il faudrait que l'organisme reprenne son cycle normal. Donc, vous pouvez attendre 2 mois, 3 mois, 4 mois avant d'avoir une grossesse. Donc, lorsque vous décidez de vous mettre sous méthode contraceptive, il faudrait que vous sachiez à quel moment voudrez-vous avoir une autre grossesse. Et il faut savoir l'arrêter à un moment opportun pour que votre date prévue, vous puissiez avoir une grossesse. Donc, c'est d'avoir des conseils auprès des prestataires, de se rendre dans le centre de santé pour dire « Ah, je suis sur telle méthode et je voudrais avoir une grossesse d'ici janvier 2020. » Et la prestataire va vous dire « Bon, si c'en est ainsi, arrêtez la méthode dès aujourd'hui ou bien le mois prochain. » Et comme ça, dès janvier 2020, vous pouvez avoir votre grossesse. Et ce n'est pas le cas qui se présente. Et c'est un arrêt d'elles-mêmes, elles arrêtent d'elles-mêmes et elles se disent que oui, je voudrais avoir une grossesse dans 2 mois, donc j'arrête ma méthode aujourd'hui. Et dans 2 mois, quand elles n'ont pas la grossesse, elles se disent que ah, c'est pas possible. C'est
on fait une relation de cause à effet qui est
voilà,
qui est et puis d'autant plus, docteur Moquet, qu'il y a des problèmes de stérilité
justement
qui ne sont pas liés au contraceptif.
Justement, c'est vrai.
Il y a et des qu'on peut associer au contraceptif.
Au contraceptif. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même les méthodes contraceptives aussi traitent l'infertilité. Parce qu'il y a des infertilités qui sont dues à un déséquilibre hormonal. Et lorsqu'on te met sous méthode contraceptive, à l'arrêt, tu peux avoir une grossesse. Donc, ce n'est pas la méthode qui crée l'infertilité. Il y a d'autres pathologies qui peuvent entraîner une infertilité.
Notamment les infections
sexuellement transmissibles.
Donc, ça plaide encore pour le préservatif, parce que ça permet plus tard, quand on le souhaite, d'avoir un enfant en ayant évité ces infections sexuellement transmissibles. Oui. Voilà pour cette réponse. Vous avez une autre question?
Oui. Concernant les préservatifs, j'ai remarqué que lorsque nous utilisons les préservatifs, plus actifs des préservatifs, il y a les préservatifs avec crampons, je ne sais pas comment on appelle ça, et puis les préservatifs mentholés, par exemple. Bon, lorsque nous allons voir un médecin, celui-ci nous dit, n'utilisez pas les savons parfumés, que ça peut, pour faire des toilettes, que ça peut provoquer des trucs. Mais je remarque qu'il y a des préservatifs avec des parfums.
Avec des parfums.
Voilà, parfumés.
Synthétiques.
Voilà. Mais est-ce que ces préservatifs ne peuvent pas nous créer des problèmes plus tard?
Docteur Moquet, question très concrète. Des préservatifs parfumés, des préservatifs texturés. Est-ce que cela peut avoir... Je ne sais pas, apparemment, il y a des petits garçons qui ricanent. Hein. Voilà, donc est-ce que les préservatifs texturés ou les préservatifs parfumés peuvent avoir un impact, non, on va dire, sur la santé de la femme?
Non, je ne pense pas. Je pense que les préservatifs, c'est toujours, c'est un lubrifiant. C'est un lubrifiant. Et ce lubrifiant, peut-être que le fabricant a parfumé le lubrifiant, mais ça n'a pas d'effet indésirable sur la femme. C'est un lubrifiant, au contraire, qui aide la femme à ne pas avoir vraiment une infection. Parce que vous saviez, lorsque vous faites trop la toilette vaginale et qu'il y a une sécheresse vaginale, s'il n'y a pas de préservatif qui est lubrifié, les rapports même peuvent entraîner une irritation vaginale. Et l'irritation vaginale est suivie d'infection. Et donc, vous voyez, un rapport avec le vagin qui est sèche, sans préservatif, peut entraîner une infection. Alors que avec le préservatif, il y a déjà le lubrifiant là-dessus, et là, ça vous protège contre une infection. Et le parfum, c'est le lubrifiant qui est parfumé, il n'y a pas d'effet indésirable sur le corps de la femme.
Voilà pour cette réponse, Fatima. Merci beaucoup. On va donner la parole maintenant à Johanna, qui est juste à côté de vous. Johanna, bonjour.
Bonjour, Caroline.
On écoute votre question, Johanna.
Moi, j'aimerais savoir, parmi les différents types de pilules, en tant que jeune fille, quelle est la pilule la plus appropriée?
En fait, c'est vrai, hein, les pilules, c'est des pilules au pluriel. Il n'y a pas qu'une seule pilule, parce qu'elles ont des méthodes de fabrication, des usages différents. Docteur Moquet, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
Il faut dire qu'il y a plusieurs pilules, effectivement. Nous avons l'association d'œstrogènes et progestérone, et puis il y a des pilules simples avec progestérone. Donc, en fonction de votre cas, lorsque vous vous rendez en consultation, il y a un examen qui est dû à l'interrogatoire, et en fonction de votre choix, et après l'interrogatoire et puis après l'examen, on vous dit si c'est adapté à votre corps ou non. Sinon, on appelle ça des pilules combinées ou les pilules progestatives non combinées.
Ça veut dire aussi que derrière la question de Johanna, oui, ça veut dire qu'on va consulter avant de prendre une pilule, et on n'achète pas la pilule n'importe où.
On n'achète pas la pilule à la pharmacie, parce que le pharmacien ne peut pas vous conseiller, ne peut pas savoir si la pilule est adaptée à votre corps ou non. Donc, il faudrait se rendre dans le centre de santé, et c'est dans le centre de santé que la prestataire va vous donner des informations sur la pilule de votre choix et ce qui est adapté à votre organisme.
Vous avez une autre question, Johanna?
Maintenant, dans le cas de la pilule du lendemain, on doit aussi aller voir un médecin pour qu'il nous prescrive ça, ou bien c'est comment?
C'est pas la même chose, hein, docteur Moquet.
Non, ce n'est pas la même chose. Il faut dire que bon, la pilule du lendemain, c'est lorsque on a les rapports dans la période susceptible d'avoir une grossesse non désirée qu'on se met sous cette méthode. Donc, cette méthode, en fait, c'est en plus unique pour d'une seule journée. Donc, je pense que cela n'est pas adapté. Mais il ne faudrait pas que ce soit une habitude.
C'est bien une méthode d'urgence.
C'est une méthode d'urgence. La pilule du lendemain, aussi appelée contraception d'urgence, ce n'est pas une contraception qu'il faut utiliser à tous les mois. Par exemple, si vous aviez trois rapports ou bien quatre rapports susceptibles d'être fécondés en ce moment, il faudrait que vous cherchiez à vous mettre sous méthode contraceptive. Mais sinon, lorsque vous utilisez la méthode, la contraception d'urgence tous les mois, cela aussi a des effets indésirables. Donc, il ne faudrait pas utiliser de façon abusive la contraception d'urgence.
Voilà, Johanna, pour cette réponse.
Je n'utilise pas les pilules du lendemain de façon abusive. Mais la première fois que j'ai utilisé, ça a perturbé mes menstrues. Donc j'aimerais savoir qu'est-ce qui a causé cela.
Mais justement, c'est une pilule hormonale. C'est une hormone que vous aviez pris en dehors, soit au milieu du cycle. Donc lorsque vous avez pris 10 jours après, vous êtes obligé de saigner. Ça va dérégler votre cycle normalement. Normalement, ça fait que soit vous avez le cycle plus tôt ou plus tard.
On va donner la parole à Reine tout de suite. Reine qui est avec nous. Bonjour Reine.
Oui, bonjour Caroline. Je suis Reine Sally, j'ai 29 ans.
On vous écoute Reine.
En fait, ma question se situe au niveau de la fabrication des méthodes contraceptives. J'aimerais savoir si elle se fait en fonction de, comment on appelle ça, nos modes de vie, où les pilules fabriquées sont textuellement pareilles.
Ce sont des produits industriels, donc ils sont faits en série, hein, docteur Moquet.
Oui, ils sont en série. Vous aviez, bon, je ne veux pas trop rentrer dans le domaine médical, parce que vous aviez en méthode de contraception de pilules, vous aviez les pilules mini-dosées et puis normodosées. Et puis vous aviez, on appelle triphasique, monophasique et tout. Et donc, il faudrait que, je ne veux pas trop rentrer dedans, ce sont des termes médicaux. Donc, c'est lorsque, en général, les méthodes contraceptives que nous avons, ce sont des mini-dosées. Ce sont des pilules qui sont adaptées à tous les organismes, ces mini-dosées. C'est ce que nous prescrivons en général dans tous les centres de santé que nous avons.
Voilà pour cette réponse. On va tout de suite donner la parole à Alain qui est là. Alain, bonjour.
Bonjour, Caroline.
On vous écoute.
Merci. Je suis Alain Essé-Etepo. J'ai quelques questions sur la contraception masculine.
Allez-y.
Voilà, j'aimerais savoir, en dehors du préservatif, est-ce qu'il existe d'autres moyens contraceptifs pour les hommes?
C'est une très bonne question.
Et si oui, alors lesquels?
Lesquels? On sait qu'il y a beaucoup de recherches là-dessus, notamment sur une pilule masculine. Docteur Moquet, on attend encore les résultats de cette pilule masculine.
Oui, on attend les résultats. C'est une très bonne question, effectivement. Et on attend les résultats. Il faut dire qu'à part les préservatifs, il n'y a pas de pilule adaptée au jeune homme actuellement. C'est en étude, mais nous n'avons pas encore eu les résultats. Mais il faut dire qu'il y a la contraception chirurgicale où on fait la vasectomie qui est adaptée. C'est une méthode définitive qui est pour l'homme, chez l'homme. Mais c'est après, il faudrait que l'homme accepte de ne plus avoir d'enfant. Parce que c'est une contraception définitive, irréversible. Donc c'est la seule méthode qui existe actuellement, la vasectomie. Sinon, les autres méthodes, comme des pilules pour hommes, ça est à l'étude, on n'a pas encore eu les résultats.
On va dire, docteur Moquet, que c'est très culturel, hein, parce que dans certaines régions du monde, la vasectomie, c'est le premier mode de contraception. Je pense notamment en Amérique du Nord, un pays qui fait beaucoup rêver, le Canada. C'est une méthode tout à fait ordinaire. Les hommes ont des vasectomies une fois leur vie d'homme, leur vie familiale constituée. Et ce n'est pas du tout quelque chose qui est perçu comme réducteur, comme une baisse de la virilité. C'est quelque chose de normal.
Non. C'est quelque chose de normal, mais je n'en tourne pas ici. Au Togo, je pense qu'actuellement, ils continuent de vulgariser cette méthode. La vasectomie est beaucoup pratiquée au Togo. Hein, donc, chez nous, vous savez, ça n'agit pas sur la virilité de l'homme.
Il n'y a pas d'impact, on va dire. Il n'y a pas d'impact.
Il n'y a pas d'impact.
Il n'y a pas d'impact sur l'érection, pour parler concrètement.
Oui, justement.
Moi, j'ai cette question pour vous, Alain. Ça veut dire que s'il y avait accès à une contraception masculine, vous avez déjà le préservatif, hein, on l'a bien compris, vous seriez tenté, vous auriez envie de vous, d'utiliser ces méthodes contraceptives ?
Ça dépend. C'est pourquoi j'ai bien voulu savoir quelles pourraient être les conséquences. Et si je suis entièrement armé de toutes les incidences que cela peut générer, à partir de ce moment, je peux opter pour le choix de telle ou telle méthode.
Ce serait quoi pour vous la contraception masculine idéale ?
Je pense que la pilule est assez discrète. Et ça sera assez mieux.
Oui. Alors, il faut dire aux chercheurs de continuer à travailler sur cette méthode. Merci beaucoup, Alain. Et on va prendre un dernier spectateur. C'est Serge qui est avec nous. On donne tout de suite la parole à Serge. Bonjour, Serge.
Bonjour, Caroline. Je suis Serge. J'ai 28 ans. Le président de la République a signé un décret portant gratuité des services de planification familiale pour les jeunes filles de 15 à 24 ans. Alors, ma question est de savoir, et m'adresse surtout à la partie étatique, qu'est-ce qui est fait à l'endroit des jeunes filles sexuellement actives de moins de 15 ans ?
Alors, c'est sur ce qui se passe au niveau légal, au niveau des aides. Il y avait un projet qui était dans les cartons, un projet justement sur la planification familiale et la santé sexuelle. Le grand public en a pris connaissance au mois de juillet 2018. Et depuis, je vous demande, docteur Sanogo, qu'est devenu ce projet de loi ?
Concernant ce projet de loi, comme vous l'avez dit vous-même, c'est une question très sensible, une question de santé très sensible. Et dans le projet de loi, les hommes religieux comme la population ne se sentent pas très à l'aise avec certaines dispositions dans le projet de loi.
Il y avait des questions qui bloquaient, notamment sur la procréation médicalement assistée, sur l'avortement, et puis justement sur cet accès de la contraception aux plus jeunes. Maintenant, il y a les réserves des religieux et il y a la réalité pratique. Et cette réalité pratique, elle a un nom, ce sont les grossesses précoces et la mortalité maternelle. Aujourd'hui, quand on regarde le développement de la Côte d'Ivoire, 8% de croissance, un tel taux, moi je l'ai sous les yeux, de décès maternels, 645 décès pour 100 000 naissances. On n'imagine pas forcément ce que c'est, mais c'est très important. On peut dire que la Côte d'Ivoire est à la traîne en matière de mortalité maternelle, parce que certains peuvent parfois sourire, applaudir dans le public, mais derrière il y a la santé des femmes, il y a la vie des femmes qui est en jeu. Là aussi j'aimerais qu'on applaudisse pour la santé des femmes et la vie des femmes, parce que aussi c'est important. Et ça veut dire que si certains se voilent la face sur cette contraception des jeunes, cela n'empêche pas ces jeunes d'être sexuellement actifs, Madame Sanogo.
Oui, c'est exact, Caroline. Et pour revenir sur le projet de loi, il faut dire que les discussions se poursuivent. Les discussions se poursuivent pour trouver la bonne formule, le consensus pour véritablement aider nos filles qui sont en deçà de l'âge recommandé pour pouvoir avoir accès à la contraception. Donc, il y a beaucoup qui est en train d'être fait. On espère que d'ici là, on va véritablement valider cette loi-là pour aller de l'avant. Et pour revenir sur le taux de mortalité maternelle, c'est 614.
Il y a du mieux.
C'est pour vie, c'est 614, on n'est pas à 645.
Ça veut dire que les chiffres se sont améliorés récemment?
Non, les chiffres se sont pas. C'est pas que les chiffres se sont améliorés, mais c'est stationné depuis un certain temps.
Et quels efforts sont faits justement pour réduire ce chiffre, ce pourcentage de mamans qui décèdent au moment de l'accouchement ou dans les jours qui suivent?
Les efforts qui sont faits au niveau du gouvernement, le ministère de la Santé, c'est véritablement rapprocher les services des populations. Que une femme enceinte n'est pas à parcourir assez de kilomètres pour avoir accès à un centre de santé pour la prendre en charge. Et sensibiliser également les prestataires pour l'accueil qui est réservé à ces femmes, les prendre dans de bonnes conditions et faire en sorte qu'aucune femme ne meure en donnant la vie.
Euphrasie Koulibaly, vous voulez réagir, mais moi j'ai une question à vous poser. Justement, on va entendre votre réaction. Il faut dire que le corps d'une jeune fille de 13 ans, de 14 ans, n'est pas prêt à accueillir un fœtus, n'est pas prêt à faire naître un bébé. Le fœtus est là, mais elle est trop jeune, son corps est trop jeune pour porter la vie, puisqu'elle est elle-même encore une enfant.
Effectivement. Je voudrais intervenir un peu sur les 614 décès pour 100 000 naissances vivantes. C'est vrai qu'on prend les mesures pour que la consultation prénatale soit faite, mais il faut dire que ces décès ne sont pas seulement liés à la consultation ou au manque de consultation prénatale. Il y a aussi les cas d'avortement clandestin en Côte d'Ivoire. La loi en Côte d'Ivoire ne favorise pas l'avortement, mais la réalité, c'est que les jeunes filles ont recours à l'avortement et dans des conditions qui ne sont pas vraiment adéquates pour cela. Et donc, il y a beaucoup de filles qui meurent des suites d'avortement en Côte d'Ivoire.
Vous avez des chiffres, justement,
Il y a une étude qui était sortie sur la surveillance des décès maternels en Côte d'Ivoire qui avait présenté des chiffres où 47% des filles en Côte d'Ivoire ont eu recours à l'avortement avant l'âge de 24 ans. Et c'est énorme, 24%. C'est énorme. Malgré que la loi soit vraiment dans des conditions, moi je me dis, si on veut interdire quelque chose, il faut proposer des solutions alternatives qui soient efficaces. Or, la solution alternative, on a remarqué que les pays où l'avortement est légalisé, je prends l'exemple de l'Afrique du Sud, le taux d'avortement a diminué de façon drastique parce que la question n'est plus taboue. On arrive à en parler sur la place publique et on arrive à donner des conseils et à donner des mesures pour que les personnes ne meurent pas des suites d'avortement. En Côte d'Ivoire, je me dis, si quelqu'un arrive à avoir recours à l'avortement, c'est qu'à un moment, il n'a pas eu accès à l'information, il a une grossesse non désirée et c'est une suite logique qui conduit à un avortement. Donc, la loi ne sera pas là seulement pour dire « allez-y avorter », mais c'est toute une gamme de mesures qui va accompagner cette loi-là.
Pour vous aussi, docteur Germaine Moquet, cet avortement clandestin, c'est finalement l'échec de l'accès à la contraception.
Oui, c'est... Bah, l'échec à l'accès à la contraception, mais aussi c'est le manque d'information.
Mais les deux sont liés.
Oui, les deux sont liés. Le manque d'information des femmes pour se rendre dans un centre de santé pour avoir un service et des conseils sur leur état de santé puis sur une méthode contraceptive. Et ce que j'aimerais ajouter, c'est que il faudrait que au niveau de la loi, il faudrait qu'on accélère. Il faudrait qu'on accélère le processus sur la loi de la S. Il faudrait qu'on accélère. Et puis, il faudrait une information aussi de la population. Parce que nous avons une loi datant de 1960 pour dire que ce qui est autorisé en Côte d'Ivoire, c'est l'avortement thérapeutique. Mais cette loi même qui est connue, elle n'est pas vulgarisée. Donc, la population n'utilise pas, mais les prestataires n'arrivent même pas à mettre en pratique cette loi-là, l'avortement thérapeutique. Donc, c'est pour dire que une autre... est de favoriser, de vulgariser, de prendre les lois, mais il faut aussi vulgariser et sensibiliser la population à mettre en pratique cette loi-là.
Ça veut dire faire ce qui correspond finalement à la réalité.
À la réalité.
Bien, ce sera le mot de la fin. Merci à toutes les trois d'avoir participé à ce débat en public. Merci à vous, docteur Gontianoua Sanogo, adjointe au chef de service prévention au programme santé scolaire et universitaire des adolescents et des jeunes. Merci beaucoup à vous, docteur Germaine Moquet. Vos explications ont été très claires, très pertinentes. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricienne. Merci à vous, Euphrasie Koulibaly, présidente de l'association Réseau des jeunes ambassadeurs pour la planification en Côte d'Ivoire. Et on dit bien sûr merci au public. Merci à tous, toutes celles qui ont posé des questions. Merci à vous, public, de cette 12e édition du FEMUA. Émission réalisée, bien sûr, grâce à vous, grâce à la jeunesse d'Abidjan. Merci pour vos questions. Priorité Santé, une émission préparée par Assetou Samaké, réalisée par Boris Vichit et Marc Fichet. Lundi, on sera de retour à Paris et on va parler de la peau, santé de la peau. Ce sera Raphaël Constant qui sera au micro. Et on vous donne donc rendez-vous lundi 9h10, temps universel. Au revoir Abidjan et à très bientôt. Au revoir.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Comme nos clients dans plus de 14 pays, profitez d'une assurance santé toute option où que vous soyez. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.